Et bonjour tout le monde, bienvenue en ce 1er juin 2017, c'est JP qui vous parle sur les ondes de puissance maximale. Et c'est une autre semaine dans l'univers de Star Trek, vous écoutez Parlons Trek, et je suis accompagné aujourd'hui de mon très fidèle collaborateur Marc. Bonjour Marc.
Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour JP, bonjour Pierre.
Et Pierre, bonjour Pierre.
Bonjour, bonjour, salutations à tous.
Ah, bon, alors, qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Dites-moi.
Cette semaine, comme la nouvelle saison de House of Cards est commencée, j'en ai écouté beaucoup hier.
Bon.
Ben, avant-hier,
plutôt. Encore la première saison, là?
Non, moi, je suis rendu à la saison 5, épisode 8.
Oh, OK, tu te rattrapes, là. OK.
Non, moi, je suis à jour. Je l'écoute depuis.
OK, depuis le début?
Oui.
OK. Je me disais, hey, 5 saisons en une semaine.
Non. J'attends la 5e saison depuis la fin de la 4e, là.
OK. Soit.
Puis évidemment, j'ai écouté du Star Trek encore, là. Je viens de finir TNG, là.
Bon. Et toi,
alors,
mon
je m'attaque
Pierre?
À DS9.
Ah, c'est bon, ça. Yes. Mm-hmm. Et toi, mon Pierre?
Ah, moi, comme d'habitude, à chaque semaine, je fais dur. Non, sérieusement. Non, ben, je dois avouer que oui, je fais dur parce que je me suis fait avoir par le démon qui s'appelle Legend of Zelda Breath of the Wild.
Ah.
Alors, j'ai été... appelé par la laine de la nature.
C'est sur la GameCube, hein, c'est ça?
La GameCube? T'es genre 4 générations en retard? Non, je me suis acheté une Wii U juste pour ce jeu-là. Là,
t'sais. OK, vas-y. Tu as dû l'avoir pas trop cher, j'imagine.
Non, j'ai eu un petit deal. Mais c'est ça, là. Je jouais ça, je prépare des games de jeux de rôle. Et j'ai préparé une surprise pour cette semaine. Alors, il y a un sondage en ce moment sur notre page Facebook.
OK, oui.
Alors, qui est, vous pouvez choisir de quel animé je vais parler aujourd'hui. Alors, entre Irresponsable Captain Taylor et... Super Dimensional Fortress Macross. Alors, vous pouvez choisir votre ennemi. Les deux ont beaucoup de points communs avec Star Trek. Alors, vous pouvez y aller. La grosse affaire, comme le dit le nom Irresponsable Captain Sailor, c'est drôle. Alors, si vous voulez y aller pour le LOL, c'est lui. Puis Macross, ben, c'est un peu plus sérieux, mais c'est très bon.
Ah, alors, c'est excellent. Ah, ben sinon, moi, de mon côté, je suis en train de regarder Twin Peaks, parce que tout le monde en parle, fait que je me suis dit, on va y donner une go. Fait que je suis rendu, là, j'avais commencé, ben là, j'ai comme plus intense, j'ai plus de temps cette semaine, fait que je suis rendu pas mal à la fin de la 2e saison, fait qu'il reste le film, puis ensuite, je vais regarder la nouvelle série. Puis sinon, ben j'ai regardé, j'ai retéléchargé, je l'avais acheté à l'époque, puis j'ai retéléchargé. Le jeu vidéo de Star Trek qui avait sorti, je pense, juste avant Into Darkness, avec Kirk et Spock dans le Kelvin Timeline.
Ah oui! Je l'ai joué, ce jeu!
Il est correct. T'sais, c'est un jeu d'aventure standard, mais tu vois qu'il manque un peu de polissage, des bugs un peu partout. Puis,
Est-ce que par hasard, c'est parce que t'écoutes le Angry Video Game Nerd puis que lui et Mike en ont parlé? Parce qu'ils en ont vraiment parlé très récemment. Là,
c'est vraiment juste parce que je cherchais des jeux à haut contenu narratif. Parce que moi, les trucs de Survivor ou les trucs qui n'ont pas de scénario, ça va même chercher. Fait que c'est comme... malgré le fait que j'ai comme 400 jeux dans ma librairie Steam... Des fois, c'est comme s'il n'y a pas un gros attrait narratif, ça ne vient pas me chercher.
Ah, il est très narratif.
Oui, c'est ça.
Donner ça. C'est ça, très c'est narratif vrai. Comme jeu.
Puis il y a des Gorns. Tu peux visiter un peu l'intérieur de l'Enterprise, qui est comme le fun. Et ça prouve.
Hein. Mais c'est un first-person shooter.
Non, mais c'est un third. En fait, c'est un third-person.
Ouais, third. Ouais, third. Mais il est vraiment très basé sur des principes FPS. Beaucoup, pour ceux qui aiment les God of War. C'est ça, God of War?
Non, ouais, c'est pas God of War. God of War avec des guns.
Non, c'est pas God of War. Pas en tout. Je pensais plus à Gears of War. C'est ça, Gears of War. Parce qu'il faut toujours te mettre à couvert. C'est un shooter qui est très tactique.
Ben, c'est très standard de nos jours comme jeu, là, on s'entend.
Oui, mais tu sais, à Star, il y a beaucoup de standards. c'est ça. C'est quand même un bon jeu au niveau de l'histoire.
On te perd un peu dans le son, je sais pas ce
que excusez, non, c'est ma faute. Il y a une très bonne histoire, mais c'est parce qu'il faut vraiment accepter le gameplay, parce que le gameplay a quand même des gros problèmes.
Des grosses lacunes.
C'est ça, des grosses lacunes. Puis moi, personnellement, j'ai arrêté quand que le bout que j'attendais le plus m'a le plus déçu, c'est-à-dire le bout où est-ce que tu pilotes l'Enterprise pour aller faire du shootout. Et j'ai pratiquement vomi sur ma console tellement que c'était mauvais. J'ai été reporté le jeu puis je l'avais précommandé. J'étais le seul à l'avoir précommandé.
Évidemment.
Mais
sinon... dans ma quête de nous préparer pour notre voyage, j'ai regardé, Doug Drexler avait posté une vidéo de la visite qu'il avait faite des décors l'année passée. C'est très intéressant. Si vous allez voir sur sa, je sais pas, j'ai mis sur sa page Facebook, où je remettrai un lien sur la page de Parlons Trek. Il avait mis ça sur Vimeo. Mais en gros, il y a beaucoup d'éléments à retenir. C'est très intéressant. Donc, il disait qu'une des choses qui a fait en sorte que le design de l'Enterprise original des années 60 était aussi iconique, il utilise le terme iconique abondamment, c'est vraiment le fait qu'ils n'ont pas été dans dans des matériels de surplus militaires ou des trucs de même pour faire les props, ce qui donnait un look vraiment original et qui allait vieillir. Au lieu d'utiliser genre des boutons préfaits que tu as acheté dans un surplus d'électronique ou des trucs de même, ben ils ont pris les boutons sont faits avec de l'acrylique dans des moules à cubes, à des moules à glaçons fancy, des trucs de même. Très intéressant. D'ailleurs, toujours très hâte. On le sait maintenant officiellement dans 23 jours qu'on part. Hein, Marc?
Ouais, j'ai hâte.
Moi, j'ai déjà averti mon boss que je tomberais malade cette fin de semaine-là.
Moi, mes deux journées sont... J'ai pris congé, moi, vendredi, puis dimanche, pour être sûr.
C'est ça. Moi, ça a moins bien été. J'ai mon vendredi, mais mon boss a fait comme... Je suis correct.
Je devrais arriver jeudi chez toi, moi.
C'est bon, ça. On va partir de bonne heure.
Ouais.
D'ailleurs, malheureusement, Jérôme ne nous joindra pas dans ce voyage. Des
enfants. Ah non?
Mais cependant, mon ami Louis-Rodrigue Lozé, un autre ancien de Star Trek Québec, va nous rejoindre.
C'est un voyage 100%.
100% Star Trek Québec. mais il faut dire, à son crédit, c'est un gars qui tripe vraiment sur... années 60-70, c'est lui qui m'a vraiment introduit à Cosmos 99. Il m'a prêté ses DVD à l'époque. J'avais vu à Canal D, mais avec ses DVD, j'ai vraiment comme embarqué dans l'esthétique années 70, qui est très... Puis on partage une certaine passion aussi pour en fait, l'œuvre de Jerry Anderson en général. Donc, on s'entend super bien. Puis c'est un bien bon gars, fait qu'il risque de participer au podcast. Dans le cours de son travail, il est habitué de parler devant la caméra. Fait que on devrait être bon pour eux. Il ne sera pas trop gêné. D'ailleurs, je vais mentionner aussi que notre ami, notre nouvel ami Yann, sera aussi bienvenu à participer au podcast, qu'on soit va faire sur place ou soit à l'hôtel, là, dépendamment des arrangements. On est bien accommodant.
Peu importe, il va en avoir un quand même à l'hôtel.
C'est ça! on va faire des tests d'alcool à l'américain.
Ouais.
Alors, sinon. Écoute, on va commencer avec la grosse nouvelle de la semaine. Cette semaine, pas vraiment de nouvelles de Discovery. Cependant, il y a quelque chose d'assez gros qui est sorti. Si vous aviez
la bonne nouvelle TVA.
Oui, la bonne nouvelle TVA. On parlait de jeux vidéo tantôt. On a un jeu vidéo de Star Trek qui ne suce pas, qui apparemment est relativement bon. Star Trek Bridge Crew a été officiellement lancé cette semaine sur Steam, sur PC, pour Gear VR et Oculus Rift. Si jamais vous avez comme entre 800 et 1 200 $ qui brûlent dans vos poches.
Justement.
Ou il est sorti pour PlayStation 3?
PlayStation 4.
PlayStation 4, pardon.
Ouais, PSVR. Quoi, le PSVR lui-même coûte quoi? 400$?
Ah, c'est parce que je connais quelqu'un qui en a un, fait que je pourrais peut-être lui demander de faire un petit test. Puis,
Ouais, ben je vais peut-être. Ben il y a Cédric Duquette qui est un ami de l'Antre du Geek qui est à Québec.
De retour dans le rétro?
Oui, c'est ça. Il m'a dit qu'il pourrait sûrement peut-être nous arranger quelque chose. Fait qu'on va croiser les doigts, j'espère. C'est vraiment. Le seul gros défaut de ce jeu-là, c'est qu'il serait une plateforme qui est extrêmement onéreuse. On s'entend. Le PSVR lui-même est, comme je disais, 400$, plus une PlayStation 4 qui est quoi, 300$, 400$, plus le jeu.
400.
On tombe déjà à un bon 800-900$. Tandis que pour PC, c'est encore pire parce que sur PC, ça te prend le PC, une carte graphique assez. Au moins une 1070, une 1060 là, pour bien supporter le VR, plus un CPU qui a de l'allure, plus le tout, fait qu'un PC, un bon PC, que tu peux te monter ça entre 500 et 600$ de nos jours, moyennant que tu aies déjà un clavier, souris et écran. Fait que si tu as 500-600$, plus le Gear VR qui, lui, est 1100 kecs. Puis l'Oculus Rift, qui est à 800 quelques, c'est vraiment pas donné. Personnellement, j'aurais apprécié qu'il fasse un mode non VR, mais qu'est-ce que tu veux? C'est dommage, mais c'est ça. Le jeu qui a été retardé deux fois a tout de même quand même eu des bonnes critiques parce qu'il est très immersif. Le co-op est très apprécié. Mais encore là, faire du co-op avec 5 autres de tes amis qui ont 1 200 $ qui brûlent dans leur poche, c'est pas...
Non, effectivement. Là,
disent que le jeu manque un petit peu de polissage, mais c'est un jeu Ubisoft, fait que... Et la campagne est un peu anémique, donc un petit peu trop de shoot'em up parce que le vaisseau serait pour le vaisseau de Aegis, et c'est pas un vaisseau pour les missions scientifiques tout ça, mais il se ramasse genre façon de combat parce qu'on en parlait à un moment aussi. Les jeux vidéo, ça se prête plus souvent de la violence du combat que d'autres choses. Donc c'est peut-être probablement pour ça aussi des questions de gameplay. Mais bon, c'est mon avis là-dessus. Il y a quand même beaucoup de gens qui... en fait, si vous pensez acheter le Gear VR, présentement, le jeu vient avec tous les achats de Gear VR présentement. Star Trek Bridge Crew est fourni avec. Fait que c'est au moins ça. Une valeur de 60$ sur votre achat de 1100 US, je pense. Faudrait que je pense que c'est 1100 canadiens. Je vais aller vérifier ça, là, mais... C'est ça.
Amis français, envoyez-nous vos prix de France. Amis français, envoyez-nous vos prix en France.
Donc, c'est ça. Donc, sinon, on a vu quelque chose d'autre qui va coûter cher. On se rappelle, j'avais parlé de Star Trek Adventures, le RPG fait par Modifius, l'éditeur britannique. Donc, ils ont montré cette semaine une édition spéciale, complète, qui vient dans un gros cube Borg. Donc,
wow.
Le gros cube contient, qui se referme quand on, le devant est ouvert, mais il se referme quand on met l'écran
de maître
de jeu. On le met dans la boîte, puis ça referme la boîte, ça fait les 8... C'est ça. Ça fait tous les côtés, les 6 côtés, j'ai dit 8. Excuse-moi, je pensais en D8. Les 6 côtés de la boîte se referment. Donc, ça contient les 3 sets de dés. Donc, un set de dés pour chaque couleur. Donc, bleu, jaune et rouge pour les divers départements. quatre ensembles de figures, les figurines de C'était original, Next Generation, des Klingons et des Romuliens. Il y a aussi, bien évidemment, le livre lui-même qui est en édition limitée parce que le livre, la couverture, ça va être un rendu de l'Enterprise D imprimé sur la couverture. Il va y avoir aussi, je pense qu'il mentionne une carte. Il y avait là une carte de secteur, un peu comme ça ressemblait vraiment à l'ancien livre Star Charts. Probablement une carte aussi avec des hexagones pour faire les déplacements des personnages. Donc, et probablement plus, un petit peu plus de trucs qu'il mentionnait. Il mentionnait des petits cadeaux spéciaux en bonus. Le hic, c'est évalué. Le coût de détail est évalué à 300 livres sterling.
Ce qui est-à-dire presque 600 $.
Presque 600. Mais cependant, ils ont dit que c'était le coût évalué si on prend tous les items séparés puis on les additionne. Fait qu'on peut peut-être s'attendre à 200 livres sterling, entre 200 et 250 pour le prix de vente pour cette édition spéciale-là. Ils ont mentionné qu'il y aurait pas mal des éditions spéciales un peu moins onéreuses. Parce que personnellement, tu sais, je veux dire, c'est pas tout le monde qui aime les jouer des jeux RPG avec des figurines. Il y en a qui jouent sans. Fait que juste en enlevant ça, t'enlèves quand même pas mal de valeur. Puis t'enlèves le gros cube en lui-même si tu veux juste le livre en édition spéciale avec quelques autres gogos. Donc ça, on attend, mais il risque d'avoir d'autres éditions spéciales. Personnellement, j'hésite. Je sais pas si ça vaut vraiment la peine. Parce que un RPG, c'est
pas comme un jeu vidéo.
Puis encore certainement certains jeux vidéo, comme on parlait de Bridge Crew, ça te prend du monde pour jouer avec ça. Tu peux pas jouer avec ça tout seul. Puis avoir Pierre, tu peux comprendre très bien ça. Avoir du monde fiable pour une game, puis trouver du monde intéressé à faire une game, avoir l'idée pour faire la game, trouver le monde fiable pour semaine après semaine pour jouer à la game, c'est pas facile.
C'est ça, je suis déjà quelqu'un de privilégié d'avoir une game régulière, puis d'avoir du gens, puis encore plus privilégié d'avoir des gens que quand j'ai pas de game, que j'ai juste besoin de faire quelques appels, puis d'habitude, je suis capable de me trouver assez de monde pour me faire une game. J'ai d'autres games semi-régulières que les gens aiment. Bon, il y a des gens qui vont me dire que c'est parce que je suis un bon maître de jeu.
On te perd un peu au niveau de la...
Tu perds, voyons donc. Comment ça?
Moi, je ne le perds pas, par contre.
Non?
Ben, non.
Bref. OK, ben c'est peut-être juste moi dans ce cas-là.
Oui, c'est peut-être toi. C'est toujours ta faute, JP. Bref, un jeu de rôle, la chose que je veux surtout te dire au début, JP, oui, c'est dur d'abord de se trouver un groupe. Fait que oui, mais t'acheter un système de jeu de rôle... Parce que plutôt décider de t'acheter ou de ne pas t'acheter un système de jeu de rôle parce que tu n'es pas sûr d'avoir du monde, c'est que tu n'es pas prêt à être maître de jeu.
Ah, c'est sûr.
C'est la première des choses. Deuxièmement, attends de voir qu'est-ce qui est disponible au Canada.
Oui, ben,
parce
c'est
que
ça.
Canada et États-Unis, bien entendu, maintenant avec les commandes sur Internet, parce que. Et juste pour faire un parallèle, j'avais déjà parlé que Starfinder, la version science-fiction du jeu de rôle de Pathfinder de Paizo, arrive à nos portes cet été, en août.
Mm-hmm.
J'ai voulu le précommander sur le site de Paizo. Il offrait comme service de livraison. Le livre il était à un prix très raisonnable, c'est-à-dire 60$.
Ouais, c'est ça.
Américain. c'est quand même, en tout cas, bref. C'est le genre de prix qu'on serait à peu près prêt à payer au Canada. D'habitude, au Canada, c'est 60 à 80 un livre de jeu de rôle. Normalement, c'est 60$ canadien. Alors, bref, le livre était un prix raisonnable, mais le shipping était de 40$.
Ouais.
40$ de shipping. Coudon, qu'est-ce que vous faites avec votre shipping? Puis c'était pas un shipping là, garanti en dedans de 2-3 jours. Là. Non, c'était un shipping de 2 semaines. Là.
Ouais.
T'sais, vraiment, vraiment basic. Là. Je me dis, c'est quoi cette histoire-là? Finalement, je me suis renseigné. Puis il y a beaucoup. Bref, eux autres, c'est la compagnie avec qui ils font affaire. Puis c'est décidé de même. on n'y peut rien. Fait que, je dis,
ben, bon, ça, des fois, juste attendre que l'éditeur nord-américain, surtout quand on parle justement d'une compagnie européenne, dans le cas de Modifius, là, c'est une compagnie qui est britannique, fait que c'est sûr qu'on va peut-être attendre. On verra, là, mais peut-être voir justement pour nous en Amérique du Nord, voir s'il y a un éditeur américain, ou s'il y a un, en fait, pas un éditeur, mais un distributeur américain.
Où, oui.
Fait que ça, c'est à voir.
Il y en a sûrement un, parce qu'il y a énormément de systèmes de jeux de rôle qui viennent de France.
Si jamais, personnellement, comme je disais, moi, je suis pas vraiment maître de jeu. J'ai jamais été, mais au pire, si le besoin en est, si le besoin, je vais le faire. Au pire, j'irai chercher la campagne officielle. Puis je pourrais faire mes dents sur ma première campagne. Avec ça, c'est déjà moins compliqué que de monter sa propre campagne en premier. Là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
Oui, tu commences par une campagne préfaite. Mais anyway, tu connais tellement l'univers que faire un game pour toi, ça va être facile.
En fait, moi, je connais le côté technique, mais le côté storytelling, c'est quelque chose d'autre entièrement. Là. C'est bien le fun de savoir c'est quoi la classe de vaisseau, puis c'est quoi sa vitesse, puis... C'est qui a fait quoi à telle date, mais si t'es pas capable de raconter de quoi de sensé.
Ça va dépendre à quel point que t'es capable de raconter une histoire, mon cher. Puis si t'es capable de raconter à quelqu'un qu'est-ce qui s'est passé, t'as rien qu'à te baser sur une histoire d'une émission, d'un épisode de Star Trek que tu connais, puis de le transposer. À la base, c'est ça.
Ouais. De toute façon, comme j'avais mentionné dans un épisode précédent, Dayton Ward est un auteur qui a travaillé sur les campagnes. Est-ce que c'est les campagnes bêta? Je pense qu'il continue à travailler pour les autres campagnes. C'est un auteur qui travaille sur d'autres romans. Donc, c'est sûr qu'il est quand même relativement fiable pour se baser sur quelque chose. Fait que je fais confiance.
C'est bien cool.
Donc, parlant de livres... Pierre, ça te tente-tu de faire un peu de coloriage?
Ça te dérange pas si j'amène ma fille en même temps, elle adore ça.
Parce qu'on va avoir deux nouvelles éditions du Star Trek Adult Coloring Book. Donc, il y a une mode présentement de livres à colorier pour adultes. Et on va en avoir deux nouvelles éditions parce qu'on avait déjà eu une première pour la série originale et pour Next Generation. Et bien, en fait, on va avoir la suite. Donc, pour Next Generation, ça va couvrir les saisons 4 à 7. Puis, pour la série originale, ça va... Je suis pas trop sûr, mais est-ce que ça, ils vont continuer avec 12 épisodes. Donc, si tu veux colorier ton Capitaine Picard bleu avec des shorts roses, c'est fait.
C'est beau, je vais laisser la chance au prochain.
Au pire, on a... un beau Picard Andorian, ça serait beau.
Mais non, honnêtement, je comprends pas la fade des Adult Coloring Book. Mais bon, au pire, on peut juste acheter ça pour un an. Tu sais, je veux dire, c'est quelque chose que j'achèterais peut-être pour ta petite, au pire. Là,
ce serait très gentil. Ça va la changer des papes patrouilles.
Ouais. Parce que c'est sûr que les dessins sont un peu plus détaillés que ce qu'on trouvait dans un livre à colorier pour enfants. Les lignes sont plus serrées, tout ça. Fait que c'est pour ça, c'est probablement pour ça qu'ils appellent ça un adult coloring book. Mais bon, en tout cas, je vais essayer de ne pas trop juger. Donc, hello?
Oui,
on est toujours là.
OK, c'est bon. Je t'ai sûr.
Vous on a des problèmes techniques?
Non. Je pensais juste le fil de mon écouteur qui est en train de lâcher. Non, c'est parce que vous étiez trop silencieux. C'est un peu louche, là.
Ah, ben, on attendait que tu parles.
Est-ce qu'il y a des nouvelles cette semaine, JP?
Ben, écoute, des nouvelles. Ben, c'est ça que je suis en train de faire, là. Il y a un épisode important cette semaine qui a fêté son 25e anniversaire. Je vous laisse deviner.
Ah, prophétie.
Non, c'est pas celui-là.
Non! Oh.
Ça fait pas 25 ans encore. T'es pas. Non, en fait, on parle d'un épisode de la Next Generation, le fameux The Inner Light. Donc, ce fameux épisode où ce que Picard se fait implanter des mémoires d'une civilisation disparue. L'épisode qui, l'épisode qui nous fait pleurer à chaque fois parce qu'à la fin, quand il joue de la flûte, puis. C'est une belle histoire en tant que telle. Donc, l'épisode fête son 25e anniversaire. Je pense que c'est TrekMovie.com a une interview assez exhaustive avec l'auteur de l'épisode, Morgan Jandel, qui en fait était un. C'est quelqu'un qui est externe à la production, qui s'est fait acheter son script. Par Michael Piller. Michael Piller, qui est un des producteurs sur la série, je pense que c'est à partir de la troisième saison, qui lui avait implanté une politique de porte ouverte pour les scripts, pour les idées de script. Donc, c'est comme ça qu'ils ont ramassé cet épisode-là. C'est cela. Donc, c'est le troisième épisode de quatre à avoir gagné un prix Hugo. Pour la meilleure présentation dramatique, les autres épisodes étaient The Menagerie, part 1 et 2, la City on the Edge of Forever et la finale de Next Generation, All Good Things. Ceux qui ne savaient pas, en fait, l'acteur qui joue le fils de Picard dans l'épisode est le véritable fils de Patrick Stewart. Donc,
Star Trek Generation, les acteurs qui jouent des enfants de Picard, est-ce que c'est ses enfants ou ses petits-enfants?
Non, je penserais pas. c'est ça. Donc, ça fait 25 ans. Donc, je viens sûrement de donner le goût à quelqu'un de re-regarder cet épisode-là. Quelque chose d'intéressant, c'est que l'idée de faire jouer de la flûte à la fin de l'épisode. N'a pas été retenu au départ. Il avait réalisé quoi, il va jouer du jazz ou quelque chose comme ça. Puis c'est vraiment juste le lendemain que Michael Piller est revenu avec l'auteur. Puis il a dit finalement, c'est peut-être pas une si mauvaise idée que ça. Parce qu'il cherchait une idée de comment conclure l'épisode d'une manière un peu dramatique. Donc, c'est pas évident. Le processus créatif.
Sinon, c'est quand même drôle de le voir vieux dans l'épisode.
Oui. Le make-up est pas mal fait, sauf que ça, c'est avant qu'on apprenne que Picard était... Pas que Picard, mais que Patrick Stewart était immortel puis qu'il vieillissait plus. Parce que je pense que maintenant, il est rendu à... Je sais pas s'il est rendu à l'âge qu'il avait ou qu'il aurait eu dans cet épisode-là à la fin. Mais, tu sais, je veux dire, on s'amuse ces temps-ci, tu sais, on voit sur Internet des photos de Patrick Stewart il y a 30 ans, puis des
photos. C'est pratiquement pareil.
C'est ça, aujourd'hui, c'est quasiment pareil. Là. Donc, c'est soit un vampire ou quelque chose. Là.
Moi, je dis que c'est des midi-chloriens.
Ah, boy. Sinon, pour nos amis européens, la FedCon, c'est ce week-end, festival Star Trek, cette convention Star Trek en Allemagne. Je ne me rappelle plus exactement. C'est où? Faudrait que j'aille. C'est pas Cologne. Ça veut dire juste en. Düsseldorf. À Düsseldorf en Allemagne. Donc, il peut y avoir, je pense, la majorité des gens de Next Generation. Je vais aller chercher la liste des invités, voir est-ce que JP est toujours préparé pour...
Amis français qui y allez, si vous voyez la gang de Ghostbusters Dutch là-bas, vous leur direz salut de ma part.
sinon, c'est ça. Donc, notre ami Laurent Gonnel, artiste, va être là. Il était venu nous parler précédemment, il avait sa petite critique du musical Star Trek. Il va venir nous faire un rapport d'après-mission la semaine prochaine. Donc, bien hâte d'entendre ta version des événements, mon cher Laurent.
En parlant de nos amis européens, est-ce que tu as parlé avec Marie-Hélène à propos du nouvel uniforme de Star Trek?
Et très bof.
Hey, bof.
Je pense pas qu'elle aime les petits détails incrustés sur le
côté. À date, là. J'ai pas vu un cosplayer qui a l'air heureux de voir ces petits détails-là.
Aïe, aïe, aïe. Mais parlant d'Allemagne, en fait, on avait parlé, là, Operation Enterprise, la montagne russe du Movie Land en Allemagne, est ouverte et fonctionnelle. Donc, ça donne, honnêtement, j'ai vu des vidéos, ça donne vraiment l'impression, je ne sais pas si vous avez vu des vidéos de Star Trek, Assimilation 4D, qui à l'époque était à Star Trek The Experience à Las Vegas, là.
Oh oui, ça avait l'air tellement hot, ça.
Non, mais ça ressemble vraiment à ça, parce qu'il y a vraiment, un petit scénario, il y a des gens en uniforme de Starfleet, il y a des effets sonores quand les portes s'ouvrent, il y a une recréation de la passerelle de Next Generation, le deck, la salle de transporteur. Il y a aussi des items en display, là, en présentation avec des petites cartes informatives. Donc, ça fait penser un peu à ce qu'on avait vu à Ottawa dans l'exposition Starfleet Academy.
Oui.
Fait que je pense qu'il y a ça, une portion musée, puis ensuite la portion 4D à Hante, avec les petits vidéos, puis la visite de Holodeck, Transporter Room et de la passerelle. Ensuite, on arrive là où est-ce que la montagne russe, elle est. Elle est comme dans un petit hangar, puis il y a vraiment une porte qui s'ouvre avec le bruit de la porte de hangar de Star Trek quand elle s'ouvre. Donc, on parle vraiment d'une immersion quasi totale. Donc, ça a l'air vraiment fantastique. Encore là, nos amis, je pense que c'est sur TrekCore, TrekCore.com. On fait un article là-dessus. Il y a des vidéos. Évidemment, c'est en allemand, je crois, parce que présentement. Donc, c'est sûr que... pour ce que je ne sais pas, mais... en tout cas, ça va être à voir. Je ne sais pas s'il y a de quoi en anglais pour être plus... familier avec les touristes, ce sera à voir.
Les Allemands sont quelque chose dans les manèges et les attractions. Là,
OK.
Ils se dévouent. Là.
OK. Sinon, pour les amateurs de lecture, Dayton Ward, on en parlait tout à l'heure, a lancé un nouveau roman qui s'appelle Hearts and Minds, qui est dans la série des... relaunch dans le relancement de Next Generation. Donc, ça se passe après Nemesis, évidemment. Le livre peut se lire pas mal tout seul, mais il y a quand même des événements qui viennent des romans From History's Shadow et Elusive Salvation. Parce que, bon, on a Star Trek, les romans, en tout cas, ont leur propre univers étendu. Fait que des fois, ça peut être un peu difficile à suivre, mais il y a quand même un Memory Beta pour ceux que ça intéresse, pour savoir, là, mettons, si vous êtes dans un livre puis il y a un personnage que vous savez pas trop c'est qui puis qui a quand même l'air important, vous pouvez aller le chercher sur Memory Beta. Ils vont être capables de vous dire, bon, mais c'est qui était dans quel livre puis pourquoi il était important. Donc, c'est pas mal ça pour les nouvelles cette semaine, mes amis.
Donc, intéressant.
Donc, sur ça, on peut aller en musique. Qu'est-ce que je vous mets en petit interlude musical aujourd'hui? On peut y aller avec... Je peux mettre du William Shatner, mais je ne suis pas sûr que tout le monde apprécie.
Moi, je mettrais un petit peu Fire notre ami Takei.
Ah, ben oui, le attends, c'est Phaser Rock.
Ouais, Phaser Rock.
Ah, ouais. C'est court, mais agréable.
Oui, toujours.
On vous laisse avec Light My Fire, Phaser Rock, et on vous revient de l'autre côté de la pause. Vous écoutez Parlons Trek sur les ondes de puissance maximale.
Initiate Phaser Rock, audio selected.
This is Lieutenant Sulu of the Starship Enterprise with The Doors. You know that it would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, Uhura, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire.
Ah,
celebrity voices impersonated, phaserrock.com.
Et c'était Phaser Rock, une courte cause. Moi aussi, j'ai le droit d'inventer mes mots. Il n'y a pas juste Trump qui a le droit là-dessus.
Voyons, coffé-fé.
Coffé-fé. D'ailleurs.
Capable, ça se dit. Je ne suis même pas capable. Puis on s'en tord les boires.
Le but était de dire conférence de presse. Alors, c'est coffé-fé.
Je peux te dire que nos amis Star Trek, nos amis Trekkies sur Twitter, s'en sont donnés à cœur joie. Une mention spéciale à notre ami Swear Trek, encore une fois, que j'adore et je révère. D'ailleurs, ben, pas par, concernant le coffee, mais concernant d'autres choses, il a commencé à s'en prendre. Parce que, bon, il y a eu la nouvelle que il y aurait une présentation spéciale de Wonder Woman juste pour les femmes. Je pense que c'est dans des Alamo Draft House aux États-Unis. C'est une chaîne de cinéma. Et là, évidemment, bon, il y a des hommes qui sont. Qui croyaient pas, c'est incroyable, c'est de la ségrégation, pis tout ça. Fait que. Disons qu'il a commencé à faire des gifs pour les énerver un peu, pour les titiller. C'est délicieux, c'est vraiment juste magnifique. Le pire, c'est que ça a vraiment pogné. Il y en a un où ce que c'est. On voit une espèce de pterodactyle qui descend, puis ça dit unintelligible screeching, donc un crichement. En tout cas, et ça dit bon, ben, je pense qu'on a appelé un men's rights activist, donc un activiste des mouvements de l'homme. Là, parce que, et il y en a un autre, parce que c'est simplement. Ce qu'on voit encore, c'est dans c'est réanimé, ou ce qu'on voit comme McCoy qui scanne un Sulu blessé, puis il dit mon Dieu, une femme a parlé sur Internet et son pénis est tombé. Tu sais, c'est. Oh.
Come on!
Non, mais c'est vraiment juste pour ridiculiser. Le but n'est pas de prendre ça au premier degré, mais plus au deuxième degré, dans le sens que, tu sais, pour faire réaliser l'absurde de la chose. Là.
C'est comme le mémé que j'ai vu où est-ce que le monde est-ce que ça dit qu'il y a du monde qui se plaint que Michelle Yeoh, elle parle avec un accent chinois pour son rôle, puis qu'elle ne ouais. parle pas avec un accent américain. L'image en dessous, tu vois Sulu, puis. Non, pas celui de Chekhov,
puis Montgomery.
Puis Montgomery Scott. Ouais. Tu sais, ils disent, OK, est-ce que j'y dis ou moi je le dis?
C'est triste qu'on en soit rendu. C'est triste qu'on en soit rendu, mais faut quand même prendre. On prend ça. L'humour est quand même. Ça permet d'alléger la situation pareil. Donc,
j'espère, mais. Tu sais, le simple fait qu'il y a du monde qui se plaigne de tout ça. Est déjà d'un ridicule et honteux.
Ouais. Non, ça, je suis entièrement d'accord. Ah! Non, on peut passer à d'autres choses. Peut-être quelque chose de plus joyeux. Qu'est-ce que vous en pensez, je pense?
Rien pas.
Ah!
Bon, on pourrait y aller soit directement avec l'émission de la semaine ou on peut y aller avec Pierre où le score est encore 1-1.
Ouais, je vais laisser un peu plus longtemps. On va y aller avec l'émission de la semaine, je pense.
OK.
Bon, ben, avant l'émission de la semaine...
Votez!
juste vous demander, c'est votre épisode, votre premier épisode de série Star Trek préféré.
Star Trek?
Ouais. C'est-à-dire, on a le choix entre... Ben, en fait, pour la série originale, tu as le choix entre The Cage ou Where No Man Has Gone Before, parce que les deux sont considérés comme des pilotes. Ensuite, tu as Encounter at Farpoint, Emissary, Caretaker ou Broken Bow. Lequel tu as fait le plus.
C'est pas Encounter at Farpoint.
Quoique, il était quand même pas mauvais. Là. C'est juste que. Il y a des petites lacunes, ouais. Mais il est quand même pas mauvais.
Mais moi, c'est qu'il y a trop d'histoires dans l'épisode tout court.
Mm. Ouais.
Il aurait pu faire deux épisodes avec ce qu'ils ont mis.
Ben, c'est ça qu'on l'avait mentionné.
Ouais, c'est ça que j'ai de la misère.
C'était supposé être deux épisodes. Ben, en fait, c'était supposé être un épisode, puis ils ont voulu en faire un épisode de deux heures. Puis c'est là qu'ils sont venus rajouter Q. Puis finalement, on s'est rendu compte par la suite que Q était la meilleure partie de l'épisode.
J'aime bien Caretaker. Ouais, je vais dire The Emissary, moi.
Ouais, Emissary.
Ouais.
Oh! Toi, Pierre?
J'hésite entre Caretaker et Broken Bow.
Oh!
Parce que Caretaker, je l'ai écouté souvent, je l'aime beaucoup, parce que vraiment, ils vont chercher à des points différents. Ils vont du côté sombre de Starfleet, où on voit des prisonniers, on voit un agent infiltré. Ouais. On voit clairement l'influence de Deep Space Nine. Là, mm-hmm. Puis Broken Bow me donne un point de vue de Star Trek à son tout début, tu sais, en fait Starfleet à son tout début, puis vraiment j'aime le feeling qu'il y a là, le rassemblage d'équipage, les premières interactions, etc., l'inconfort, tu sais, j'aime vraiment, tu sais, le fait que ils vont sur une autre planète, puis c'est la première fois que des humains vont aussi loin que ça.
Ouais.
Puis ils savent pas ce qu'ils font, ils se mettent les pieds dans un plat, puis ils s'en vont là pour réparer une gaffe. J'aime vraiment beaucoup. Je suis pas capable de décider, mais je vais dire que ces deux-là sont vraiment très forts pour moi.
Ah, c'est bon ça. Moi, personnellement, j'irais aussi avec Broken Bow. Je pense qu'honnêtement, le look est plus léché. On dirait qu'ils ont un peu plus penser à leur affaire. Ils ont mis des petites pistes pour d'autres trames scénaristiques. T'as les Vulcains qui étaient un peu trop protectionnistes des humains. On voit vraiment un point de vue Starfleet et pas juste du vaisseau aussi. Donc, c'est quand même très bien. Justement, le bout, ce qu'on voit à Tucker qui est comme agacé par l'enfant qui respire mal jusqu'à temps que T'Pol lui dise que bon, c'est parce qu'il est en train de l'habituer à l'air normal, tu sais. Ça montre une perspective vraiment qui colle encore, je pense, pour quelques études, quelques même, on peut dire, pour les deux premières saisons, là, l'espèce de petite naïveté là, d'explorateur. Là, Donc, non, c'est ça. Puis il faut dire aussi, c'est le pilote, je pense, qui a coûté le plus cher à produire. Ce qui est quand même peu dire parce que la machine de production roulait déjà depuis 15 ans, depuis 87. Donc, c'est sûr. Mais vu qu'il a fallu qu'ils refassent tous les décors, tout le design de la production dès le départ, c'est sûr que ça a dû rajouter des coûts. mais en fait, c'est ça. Donc, moi, c'est ça. Je vais voir Broken Bow aussi. Très, très, très bon pilote. Et donc, pour un... Donc, c'est notre avis là-dessus. Pour en venir à l'épisode de la semaine, on parlait de Prophecy. C'est l'épisode de Star Trek Voyager de la 7e saison. Pourquoi je voulais en parler? Parce que je pense qu'honnêtement, il y a peut-être de quoi relativer en relation avec Discovery là-dedans, parce que plusieurs éléments qui pourrait peut-être aller chercher ça. Donc, pour rappeler à ceux qui, ça fait trop longtemps qu'ils ne l'ont pas vu, donc Prophecy, c'est un épisode de Star Trek Voyager, septième saison, 14e épisode, diffusé en premier le 7 février 2001. Non, pardon. Donc, il s'agit en fait du voyageur rencontre un vaisseau D7 de Klingon en plein milieu du cadran Delta. Donc, ils sont attaqués, ils répliquent, il y a une petite escarmouche et on apprend par la suite qu'il s'agit d'une secte de Klingons qui sont partis pour essayer
de... Il y a 100 ans.
Oui, il y a 100 ans. Donc,
il y a juste 100 ans, me semble, c'est plus longtemps.
Ben, ils ont dit
100 ans.
C'est pas 100 ans fixe, c'est autour de. Fait que ça laisse,
ouais, mais alors.
Ça laisse un petit flou juste pour dire que tu sais, parce que techniquement, l'épisode se passe en 2377, donc 100 ans avant, ce serait dans l'époque, genre, autour de du premier film, mais tu sais, on peut laisser un petit flou, là, tu sais. Tu sais, des fois, tu dis au-dessus de 100 ans, ça peut être comme...
110, 115.
C'est ça, tu sais, c'est pas comme si c'était plus proche du 150 ou du 200 ou du 175, tu sais, fait que c'est pas si pire. Donc, en fait, le capitaine Collard réalise en embarquant sur un Voyager pour se faire prouver qu'il y avait bel et bien un traité de paix entre les Klingons et la Fédération, qu'en fait, leur sauveur, qui était prophétisé, était à bord de Voyager. En fait, il s'agissait en fait de l'enfant qui n'était pas encore né, de Bellana Torres. Elle qui avait conçu dans le mois sacré de Tegret. Non, autant ça, c'est... dans un certain mois sacré, il y avait des conditions spécifiques et elle les rencontrait. Donc, par la suite, bon... Il y a un duel entre le second officier et Tom Paris. Il y a aussi
le père valait vraiment la peine. Était parce qu'il fallait il fallait prouver que le père était un grand guerrier.
Ouais, c'est ça. Donc aussi, j'ai aussi mentionné que les Klingons ont autodétruit leur vaisseau pour pouvoir le capitaine a autodétruit le vaisseau pour forcer son équipage à embarquer sur le Voyager parce que lui était certain que l'élu, le prophétisé, était cet enfant-là.
Donc, et c'était aussi, ça faisait partie de la prophétie aussi. C'était un peu comme quand il est arrivé au Nouveau Monde, Cortez, il a brûlé ses vaisseaux pour forcer son équipage à se dire, bon, ben c'est ici qu'on est, c'est ici qu'on reste.
Ouais. Donc, un peu dans la même stratégie. Donc, il y a aussi tout l'incertitude de est-ce que j'ai fait le bon choix? Est-ce que c'est vraiment cet enfant-là qui va nous le sauver, tout ça. Et le gros punch de la fin, c'est qu'en fait, on apprend qu'ils étaient tous atteints d'une maladie génétique qui a réussi à être... ça se dit en français curé ou...
Éradiqué. On va dire soigné,
guéri. Excuse-moi. Hey, j'ai des mots anglais qui m'y en avant en français. C'est vraiment triste. Donc, ils ont été guéris grâce au... à la génétique de l'enfant de Bellana. Donc, et ensuite, ils les ont établis sur une belle petite planète avant que le Voyager retourne sur son chemin dans le cadran alpha. Donc, ce qui est intéressant dans cet épisode-là, c'est qu'on voit un autre aspect de la culture Klingon. Un aspect qu'on avait commencé à voir justement dans l'épisode de Next Generation où on voit les moines Klingons qui recherchaient le retour de Kaelis sur Boreth. Là, on voit qu'un Klingon peut être religieux même s'ils n'ont pas de dieu. Ben, peut-être pas religieux, mais on va être spirituel. On va dire ça comme ça. Ils croient, ils ont quand même les croyances du Stovokor puis du Hall of the Damned. Donc, ils ont quand même des croyances... surnaturel malgré le fait qu'ils n'ont pas de dieu en tant que tel. Donc, justement, c'est ce qui est important, surtout parce que dans le nouveau trailer pour Discovery, on a vu justement des Klingons qui étaient très soit sectaires ou soit une certaine secte de Klingons, ou est-ce qu'ils étaient visiblement plus
religieux.
Religieux, tu sais. Il y avait visiblement des rites en cause là. Donc, il y a peut-être justement quelque chose à chercher là-dedans.
Mais la culture Klingon est pleine de rites. Là. Tu sais, des affaires d'honneur, puis etc. Les rites ont vraiment pour raison d'être une croyance, une religion. T'sais, on dit, il y a un vieux principe qui est le mythe. La foi et l'habitude. Le mythe peut partir, la foi aussi. Des fois, ben, c'est la foi qui part, le mythe reste, mais l'habitude, c'est ce qui reste, qui est le plus difficile à faire partir.
Oui, comme le poisson le vendredi pour certains. D'ailleurs, Aïe, aïe, aïe. Donc,
nous autres, c'est le McDo le vendredi, mais bon.
Ouais, mais c'est pour ça que, d'ailleurs, ceux qui ne savent pas, c'est la raison pourquoi le Mec Poisson existe. C'était pour faire monter les ventes le vendredi.
JP, le Mec Fish.
Le Mec Fish, le Mec Poisson, même affaire.
Sinon, ils ne sauront pas ce qui se passe en France si c'est le Mec Poisson.
Ah, c'est vrai, c'est un mec. Oh mon Dieu. Pardonnez-moi, les amis.
Français, si vous venez au Québec, commandez-vous une mec poutine.
Aïe, aïe, aïe. Donc, c'est ce que je pense, honnêtement. Ça, je pense que. Puis, il faut dire aussi que Brian Fuller travaillait sur Voyager à cette époque-là. Il n'a pas travaillé sur cet épisode-là spécifiquement, mais puisque Discovery est intense en Klingon, il a l'air intense au niveau Klingon. L'épisode 7 de Voyager fait référence à quelque chose qui s'est passé à cette époque-là. On parle de trucs génétiques, de prophéties, sectes. Je pense qu'il y a des ingrédients qui ont peut-être été cherchés là-dedans. C'est la petite impression que j'ai, moi, par rapport à ça. Sinon, l'épisode en tant que tel, comme vous l'avez aimé, il était correct.
J'avoue qu'il était très loin dans mes mémoires. J'ai été occupé cette semaine, alors j'ai pas eu le temps de l'écouter au complet, mais c'était quand même un bon épisode. Là. Puis ouais. Comme tu dis, le lien avec nos Klingons de Discovery, peut-être. Tu sais, les cultures, gars, ça arrive à une centaine d'années, comme on dit, ça arrive à peu près à l'époque. Là.
Ouais.
Ah, ils ont peut-être vraiment pris tous ces liens dans les épisodes, puis ils ont fait une histoire avec. Là. On ne sait pas.
Mm. Et toi, Pierre, ça t'a laissé une bonne impression comme épisode?
Moi, je dois avouer que la première fois que je l'avais vu, bon, ça fait quand même très longtemps, j'avais vu ça comme ça. Tu sais, mais là, cette fois-ci, quand à la réécoute, je dois avouer que ça allait chercher ma fibre de père.
Ah.
Parce que je voyais vraiment une jeune famille qui commence qui sont sur le point d'avoir un enfant. Je voyais Belana Torres qui est déjà, on le voit dans les épisodes avant et après, qui est déjà extrêmement stressée d'avoir de son futur enfant parce que il y a un épisode complet où est-ce que elle essaye de changer la structure génétique de son futur enfant pour enlever le Klingon dedans. Mm-hmm. Tu sais, parce qu'elle se souvient d'avoir été maltraitée quand elle était jeune de ça. Des gens arrivent puis disent que ton enfant c'est le futur messie. Écoute, t'as déjà assez à toffer juste le fait que tu vas avoir un enfant, c'est stressant, tu sais pas si ça va bien aller, t'es déjà dans un endroit de merde. c'est déjà super méga compliqué d'être parent pour eux autres, là. Puis là, en plus, il y a un paquet de monde qui disent que ton flow va être le messie. Hey, Colin, y a-tu moyen de vivre notre fucking vie de parent tranquille? Puis genre, tu sais, vraiment, faut qu'elle embarque avec ça, avec ses vieilles traditions qu'elle avait pas mal tout faites pour repousser. Des fois, il y avait retouché un peu. Fait que là, il y a un autre point de vue aussi que j'aime bien puis que t'as pas mentionné. C'est que le capitaine du vaisseau, il croit rien qu'à moitié à sa prophétie. Au début, il fait très croyant. Il dit les signes sont là. Puis après ça, en aparté avec eux autres, en privé, il leur dit c'est pas important ça que ça soit la vérité. L'important c'est que on dise qu'est-ce qu'on veut qu'ils pensent. Mm-hmm. Puis s'ils sont d'accord avec ça, s'ils embarquent. Ben, on va pouvoir faire quelque chose. Ils disaient qu'ils étaient tannés, que leur peuple avait aucune raison de continuer comme ça à aller dans le vide puis d'aller nulle part. Eux autres leur avaient déjà trouvé une belle petite planète toute sympathique. Écoute, allez à cette place-là est awesome. Vous allez pouvoir vivre là, ça va super bien aller. Ils ont envoyé là et puis ils vont refaire leur vie là. Puis bravo, il y a une colonie Klingon à cette place-là. Ouais. C'était vraiment beaucoup de points de vue, beaucoup de... En tout cas, celle-là, là, ils l'ont bien écrit, cet épisode-là. Il y a des épisodes de Voyager qui sont écrits avec le cul, mais pas lui. Lui, il est vraiment bien écrit.
D'ailleurs, je tiens à mentionner, c'est un épisode écrit par, selon une histoire écrite par Larry Nemechek, J. Kelly Burke, Raph Green et Kenneth Biller. Larry Nemechek, que je pense que j'avais mentionné au cours d'un autre épisode, j'ai tendance à me répéter, mais donc Dr. Trek, donc je vous invite à vous voir des trucs intéressants. Je vous invite à le suivre sur Facebook ou Twitter. C'est un contributeur régulier qui travaillait pour l'ancien site de StarTrek.com. Il a travaillé aussi pour le Star Trek Magazine. C'est un peu un historien de Star Trek. Donc, je vous invite à aller regarder ce qu'il fait. Donc, Pierre, qu'est-ce qu'on parle? C'est convainc-moi de regarder un animé.
Ouais, bon, on va regarder nos votes. Alors...
Tu vas y aller avec celui que tu veux, je pense.
Je vois que vous avez été très nombreux.
Ça m'a fait plaisir de voter.
Ouais. Alors, un certain Marc Larouche, junior, qui sait.
Moi aussi, je ne connais pas cette personne.
A dit non. Félicitations pour votre belle émission. Moi, je vote pour Mac Ross. Et un bon ami à nous, Jonathan Gaudreau,
oui,
qui vote pour Captain Taylor. Question de troller Pierre un peu pour qu'il ait à prendre une décision. Eh bien, JP, toi, t'as-tu voté? Qu'est-ce que tu veux?
Ah, vas-y, non, avec le 2, avec Captain Taylor.
Oui, bah, c'est ce que je pensais que tu me demanderais. On y va pour le LOL. Pour irresponsable le LOL. Captain Taylor.
Oui.
Allez, alors, vas-y. D'abord et avant tout, irresponsable Captain Taylor, c'est une série, qu'est-ce qu'il y a eu en premier? C'était, bien entendu, un light novel ou un petit roman avec beaucoup d'illustrations qui est très populaire au Japon. Quelque chose qu'on n'a pas vraiment souvent ici en Europe ou aux États-Unis, en tout cas en Amérique. Mais c'est quelque chose qui est niche, là, qui commence à se développer un peu. Mm-hmm. En fait, c'est surtout des traductions. Mais ce qui a vraiment fait connaître cette série-là, c'est un animé de 26 épisodes qui date de 1993, et ensuite il y a eu un autre novel, une série d'OAV, trois novels, mon Dieu, il y en a quatre, cinq. Bon, okay, il y a une série de novels, il y a eu une série de manga aussi. Bref, moi, je connais surtout la série animée et les OAV qui sont vraiment tous très excellents. D'abord et avant tout, Irresponsable Captain Taylor est, comme le dit, l'histoire d'un capitaine de vaisseau irresponsable. Dans le futur, dans très très distant et technologique futur, où est-ce que l'humanité est capable de voyager dans l'hyperespace, qu'elle a rencontré pas qu'elle a rencontré d'autres races, mais plutôt que certains humains qui ont été vivants sur d'autres planètes ont évolué avec ça et sont devenus des sous-races humaines, si on peut dire.
Ouais.
Maintenant, la United Planet Space Force est en guerre contre les Ralgoon, qui sont justement une de ces sous-races-là. L'histoire raconte le jeune Justy Ueki Taylor.
Okay.
Il commence simplement un pauvre gars qui a rien du tout, là, un drop-out de l'école, un pauvre qui a absolument aucun but dans la vie, qui voit une annonce d'une vedette fille qui dit « Venez dans l'armée et découvrez-vous » ou quelque chose du genre, bref. Puis, il se dit, ah ouais, ça doit être facile, ça, être un officier un officier militaire puis de commander un vaisseau. ça a l'air d'être la vie facile, ça. Je vais aller m'inscrire. Donc, il va s'inscrire. La première chose qu'il fait, c'est d'aller voir un espèce d'entraînement pour découvrir ses compétences avec un ordinateur qui a une voix féminine. Alors lui, ben, il complimente la voix féminine, il trouve qu'elle est très gentille, etc. Elle a même un genre, avec des lunettes virtuelles, fait que, tu sais, genre, il s'essaye un petit peu trop dessus. Bref, il fuck complètement l'ordinateur, mais ça a l'avantage de faire qu'il est engagé dans l'armée. Bon, au début, pour un simple poste absolument inutile qui est de aller porter le courrier pour les retraités de l'armée. Mm-hmm. Et il retourne ici chez un très vieil amiral qui à ce moment-là est totalement pris en otage.
Okay.
Il se fait prendre en otage par des terroristes, je sais pas trop quoi. Excusez, le premier épisode me remonte assez loin dans le temps dans ma mémoire, mais je me souviens que c'est extrêmement drôle. Et dans le fond, il le sauve de façon absolument farfelue. L'amiral, pour le remercier, il le nomme commandant de vaisseau. Il donne une lettre de recommandation. Il dit, faites de cet homme-là un capitaine de vaisseau. Les amiraux au commandement, eux autres reçoivent ça. Ils disent, fuck, c'est un ordre. On n'a pas le choix de pire. Puis il faut qu'on donne un vaisseau à ce trou de cul-là qui sait absolument rien faire, qui n'a pas fait son entraînement de rien du tout, qui est au plus bas de l'échelle. Il faut qu'on le nomme officier commandant. Bon, l'officier commandant est capable de commander un vaisseau, le plus bas est lieutenant commander. Mm-hmm. Fait qu'il il grade au grade de lieutenant commander. Il donne un ship. Et attention, le ship. Le Yukaze, excusez-moi. Faut juste que je retrouve le nom du vaisseau, c'est absolument...
Tsuyukaze,
merci. C'est une épave, OK? Carrément, okay. Une épave. Là. C'est comme... je ne sais pas si vous avez déjà vu ce film-là, qui est presque une parodie. Là. C'est un film américain... Il y a un gars qui est justement un très mauvais officier qui devient officier de commandement puis qui donne un sous-marin touche pas mon périscope.
C'est très bon,
excellent comme film, mais c'est exactement le même genre d'histoire. On lui donne le ship, la vieille cochonnerie qui devrait aller au vidange. On lui donne un équipage qui est somme toute quand même assez excellent, mais c'est tous des drop-outs, là. Il y a le classique que le médecin en chef, c'est un Soulon.
Il y a la fille qui a la lettre, les ordres à la lettre.
Oui, il y a deux personnes pour être avec lui. Premièrement, un gars qui est hyper compétent, qui devient son officier en second, qui est...
Makoto Yamamoto.
Oui, Makoto Yamamoto, qui est un excellent officier, et que juste parce qu'il a fait une connerie, qu'il l'envoie en dessous des ordres de ce gars-là, de Taylor, puis c'est celui qui souffre le plus de sa situation, parce qu'il veut que Taylor devienne un bon capitaine, parce que Taylor, étonnamment, réussit dans tout ce qu'il entreprend.
Okay.
Mais c'est toujours d'une façon totalement ridicule. Alors donc, le lieutenant Yamamoto est un excellent second officier qui est Taylor. Il y a aussi le lieutenant commander Yuriko Star, qui est principalement un officier plutôt au renseignement et qui agit un peu comme un third in command sur le vaisseau, plutôt comme un conseiller militaire. Elle est excellente officière, mais un peu coincée, puis elle fait rien qu'obéir aux ordres. Aussi, dans l'équipage, Il y a une fille qui est aux communications qui passe plus de temps à refaire sa manucure que d'autres choses.
Madame Kim.
Oui, madame.
Lieutenant Kim.
Lieutenant Kim, qui est vraiment. Je me suis dit, c'était une secrétaire avant. Un excellent pilote. Excusez-moi.
Katori,
oui, c'est ça. Katori, Harold Katori.
Je tiens à dire que je ne connais pas, je lis simplement le Wikipédia.
Oui, je sais. Moi, c'est parce que les noms sont un petit peu difficiles. Donc, est un excellent Hellman qui est bouddhiste, puis qui a une perruque blonde, mais on l'apprend vraiment juste à la toute fin.
Spoiler!
Oh, c'est pas grave. C'est vrai, quand même, assez vieux, à date de 93. Là. OK. Donc, Harumi, la nurse, qui est en fait un officier, un espion des Ralgoon, il y a certains... Là, on arrive pas mal à mes préférés. Là. Le pilote de chasse, il s'appelle Kojiro, qui est un est misogyne, puis vraiment dans le sens qu'il aime vraiment pas les filles, et c'est un excellent pilote, mais bon, un peu trop impulsif. Et il y a une unité de Marines qui est à bord du vaisseau, puis que lui puis eux autres, ça s'ostine tout le temps. Genre, je pense au premier épisode là, qui est sur le Soyokaze, là, genre, il y a carrément une mutinerie des Marines. C'est vraiment à mourir de rire. Mais les Marines sont vraiment très drôles. Là. C'est vraiment, ça a l'air de tous les clichés des films américains de guerre. Là. Ils sont là-dedans. Là. Il y a aussi deux petits pilotes qui sont extrêmement, extrêmement cute. Qui s'appelle Amy et Yumi Hanner, qui sont les petites ils disent les filles là-dedans de l'amiral.
Ouais. Je pense plus que c'est les petites filles.
Oui, c'est ça, les petites filles de l'amiral Hanner qui a donné à Taylor son grade de capitaine. Et bref, ils sont des petites pilotes de chasse qui. Puis bref, ils font toujours des petits trucs cute. Là. Mais bref. C'est pas mal l'équipage. C'est extrêmement drôle. Là, ici, il y a beaucoup d'épisodes qui ont rapport avec le Holy Ralgoon Empire. Principalement Azaline, qui est l'impératrice de cet empire-là. Elle a rien que 16 ans. Fait qu'il y a même une histoire d'amour entre elle et Taylor. Bref, je spoil. Et l'autre personne la plus importante, c'est son confident, le capitaine Dom, qui commande la flotte. À la fin de la série, de la série ennemie, là, bref, des 26 épisodes, il y a une confrontation. Taylor commande la flotte terrienne et lui commande la flotte. Et le final est à mourir de rire. Je ne dis absolument rien. Vous allez tous rire. Bref. Bon, donc, en attendant... Oui,
ouais. J'allais dire, dis-moi pourquoi un fan de Star Trek aimerait ça.
OK, bon, premièrement, si vous aimez l'humour dans Star Trek, et Dieu sait qu'il y en a quand même pas mal, c'est quelque chose qui va vraiment vous faire rire aux larmes. Si vous avez aimé, pour les Québécois, Dans une galaxie près de chez vous, ou pour le reste de la planète, Galaxy Quest, c'est pour vous. Là. C'est genre, vraiment le genre de série que vous allez aimer. Ça se passe principalement justement sur la passerelle, donc c'est très Star Trek-ish. Oui, c'est des grosses batailles de vaisseaux spatials. Il y a quand même beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de stories, mais c'est toujours quelque chose de drôle. Mais on rentre dans je vais pas dire l'esprit, mais tu sais, il y a beaucoup de scènes avec les adversaires. C'est vraiment très très bien narré. Là. Les histoires sont quand même vraiment très bonnes. Bref, puis évidemment, comme j'ai dit, c'est très passerelle, c'est très intérieur du vaisseau. On a beaucoup d'histoires sur ça devient une grande famille. Et c'est vraiment très, 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 très bon. Alors, moi, je le recommande vraiment beaucoup.
Ça va peut-être être aussi intéressant à comparer quand on va voir la série The Orville.
Oui. Orville, par contre, j'ai presque l'impression que ça va être vraiment plus Galaxy Quest que
ouais, ben en fait, je pense que l'humour dans The Orville est plus sur les relations interpersonnelles que sur l'inaptitude du capitaine. Mais il y avait de l'air quand même une certaine inaptitude du capitaine parce que, tu sais, dès le début du trailer, ils disent, bon, on était dernier en bas de la liste, mais ils nous font un capitaine. Ça me fait penser à ça. Tu me parles de ça. Ça fait penser un peu à Space Quest 5. Le moment où Roger Wilco obtient le commandement d'un éboueur spatial après avoir pas nécessairement triché, mais qu'il y a eu un glitch dans l'ordinateur de l'Académie qui l'a promis au titre de capitaine. Tu me parlais de ça. Ça faisait vraiment penser à Space Quest 5. Okay. Un de mes préférés au niveau des Space Quest, là. C'est intéressant. J'ai regardé, il n'y avait pas l'air d'être édité en DVD, cependant, je sais pas,
C'est vraiment... C'est une série qui, même si elle est plus difficile à obtenir, mérite d'être vue, parce que le principal problème avec cette série-là, c'est qu'elle n'a jamais été doublée. Si vous l'avez, c'est parce que vous l'avez eu en sous-titré. Non, pas nécessairement illégal, parce que moi, la version que j'avais n'était pas illégale. Était parfaitement légale. Mais c'était pas en DVD que j'avais, moi je l'avais en VHS.
Ah, ok.
C'est très longtemps. Je sais qu'il existe des versions DVD, mais je pense que c'est plus des versions européennes ou qui viennent d'Angleterre ou d'autres pays. Je peux pas garantir. Mon expert en DVD n'est pas ici.
Est-ce que tu es abonné à Crunchyroll? Ce serais-tu là-dessus?
Honnêtement, je sais.
Ça serait peut-être intéressant dans tes chroniques futures de mentionner. Je sais qu'il y a beaucoup de fans d'animé qui sont abonnés à Crunchyroll. Là. Ce serait peut-être intéressant à voir ça. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, là, des fans d'animé qui utilisent ça pour regarder leurs animés. Fait que...
Si vous plug me donnez de deux même. Minutes, je vais aller voir sur Anime News Network si c'est disponible quelque part. C'est disponible en UK, Australie. C'est là qu'on va trouver les.
Donc, encore une fois, nos amis européens, c'est dans votre camp.
Oui.
Et sur ces belles paroles, on va vous laisser.
Déjà.
Mais avant tout, je tiens à mentionner une chose. Les Allemands adorent David Hasselhoff. C'est une. David Hasselhoff. Parce que c'est une vieille joke de Saturday Night Live. Mais le fait est que je regardais la liste d'invités de FedCon et ils ont invité David Hasselhoff. Fait, pour moi, ça confirme le fait que les Allemands adorent David Hasselhoff. Parce qu'apparemment, que c'est le fanbase allemand de Baywatch qui aurait sauvé la série de la cancellation. En tout cas, c'est des rumeurs, ça sera voir. Mais j'ai juste trouvé ça drôle. Il a fallu que je mette ça sur Twitter. J'ai dit, bon, les Allemands adorent
David Hasselhoff. Veux-tu que je te donne une autre preuve de ça?
Ouais, vas-y.
Dans le film, je crois que ça s'appelait le Patriot. Non, c'est pas le Patriot. Je pense que c'est le Destructeur. Le Pacificateur. Le Pacificateur. Ça s'appelle le Pacificateur.
Avec Vin Diesel, là?
Non, pas avec Vin Diesel. Mmh. L'autre. Bref. Je pense que c'est avec Judy Foster. Bref. Ils vont justement à Hambourg, en Allemagne. Et ils demandent, ils sont dans une situation, puis ils demandent à quelqu'un, j'ai besoin du mot de passe de ton ordinateur. Et le mot de passe est Hasselhoff. C'est juste Hasselhoff.
Non, mais c'est ça. Donc, il a juste fallu que je mette ça sur Twitter là, pendant que tu parlais. Je m'excuse, mais c'est comme j'ai vu ça, j'ai fait « Oh my God, c'est juste trop drôle ». Sur ce, pour ceux qui ont des oreilles chastes et peu, je vous conseille d'arrêter tout de suite. J'ai trouvé tout à l'heure Oui, je vais la mettre, les amis. Je vais mettre. Il y a une chanteuse au nom de Rachel Lark qui a fait une chanson à l'honneur de Capitaine Picard. Chanson qui est un petit peu grivoise pour nos amis qui comprennent l'anglais. Donc, je vous laisse sur Picard par Rachel Lark et vous aurez été avertis. Donc, sur ce, vous écoutez Parlons Trek sur les ondes de puissance maximale. On se revoit la semaine prochaine.
Bye.
My lower quadrant, take me like Riker, took Soren late in the fifth season when the writers were experimenting. Please, Commander, say engage. I'm more than happy to arrange an evening on the holodeck. I'd love to know what you would pick. I look up at the stars. I see your love that could be ours.
I just stunned the bitch so she'd be still and multiplexing an array to show you just what course to lay. Assimilate me, let's just do this. God, you're hot when you're locutus. Your dick